Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, c'est la plus grande ville d'Afrique et du Moyen-Orient. Son nom en arabe veut dire « la conquérante ». Le Caire est une mégapole bâtie en amont du delta du Nil, flanquée à l'ouest de la ville de Gizeh et ses pyramides, au sud de l'antique cité des pharaons Memphis. Nous la parcourrons avec l'œil exercé de la libraire française Agnès de Biage, qui y tient boutique depuis 25 ans. Le voile comme marqueur social. Quelle est son histoire, sa mode, son rapport à la religion? Bruno Nassim Aboudrard, professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à Paris-Sorbonne, nous en dit plus sur cette parure, objet de toutes les suspicions.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes installée en Égypte depuis 1994, d'abord libraire itinérante, puis vous ouvrez une librairie à Alexandrie, l'autre rive, et enfin, en 2004, au Caire, Oum al-Dounia, un concept original qui présente dans un même lieu une large sélection d'artisanat égyptien de qualité et une librairie entièrement spécialisée sur le monde arabe. Un lieu qui a vocation à faire découvrir et aimer l'Égypte à travers son héritage artisanal et sa littérature. Le Caire, c'est donc votre ville au quotidien depuis 20 ans. Est-elle aussi tentaculaire que sa population le laisse entendre?
Elle est plus que tentaculaire, c'est juste incroyable cette ville. On la découvre tous les jours et dès qu'on va vers le pourtour de la capitale, de nouveaux quartiers se créent chaque jour, c'est juste incroyable.
Sa vie sociale, sa vie populaire s'articule-t-elle autour de la fameuse place Tahrir, la place de la Libération?
En fait, le Caire a une vie par quartier. Les quartiers sont des villes dans la ville. Et c'est quelque chose de très important. On peut avoir des quartiers comme Choubra qui peuvent avoir jusqu'à 3 millions d'habitants. Et les gens sont extrêmement attachés à leur quartier. Donc la place Tahrir, c'est effectivement le centre de la cité. C'est le cœur du centre-ville du Caire.
En tout cas,
mais néanmoins,
depuis 2011.
Ça a toujours été, puisque le centre-ville du Caire date du 19e siècle, d'un style très haussmannien, et la place Tahrir a toujours été un centre où se sont passés plein de grands événements, je pense, aux grandes manifestations lors de la mort d'Oum Kalsoum, lors de la mort de Nasser, enfin c'était un lieu de rassemblement traditionnel.
Alors que voit-on lorsque l'on flâne dans les rues du Caire? Y a-t-il des monuments, des squares, des édifices particuliers?
Ça dépend complètement d'un quartier à l'autre. En plein centre-ville du Caire, on va avoir des façades juste magnifiques, pour peu qu'on prenne la peine de lever les yeux et de regarder tous les détails architecturaux qui se cachent sous la poussière, relativement importante. On a le Nil qui traverse la ville, le Nil majestueux, le Nil qui fait rêver et qui vient des fins fonds de l'Afrique.
Car il y a des plages d'ailleurs au Caire.
Disons qu'il y a les berges du Nil. Il y a les berges du Nil où il y a un certain nombre de cafés. Les gens prennent plaisir à être sur les bords du Nil, effectivement.
Mais y a-t-il des lieux, disons, caractéristiques qu'un visiteur, même éphémère, pour un jour ou deux, ne peut pas rater?
Oui, il y a des lieux très différents les uns des autres. Il y a effectivement des monuments. Il y a la citadelle du Caire, il y a le quartier copte du Caire, il y a tous les grands musées. Il y a le centre-ville qui en soi est quand même une des curiosités. Il y a surtout le Khan el Khalili qui est le grand bazar du Caire et qui on est en plein milieu du Caire islamique avec la mosquée Al-Azhar. C'est quelque chose d'absolument passionnant. Et on est dans un univers qui est complètement différent du centre-ville. Puis on va avoir des quartiers très modernes et des quartiers très populaires. Alors, on passe vraiment de tout l'un à tout l'autre, c'est pour ça que c'est une mosaïque de quartiers.
Justement, est-ce que tous ces quartiers se valent? Certains disent que certains quartiers sont un peu laissés à l'abandon.
résolument, oui, des quartiers sont laissés à l'abandon, d'autres sont plus privilégiés. C'est un petit peu comme dans beaucoup de grandes villes. Hein.
Mais vous-même, quels sont ceux que vous aimez? Quels sont les endroits où vous aimez aller?
Moi, j'habite un quartier qui s'appelle Garden City, qui est au sud de la place Tahrir, qui était avant un quartier de villas de Pacha, qui était absolument magnifique, où évidemment une grande partie de la végétation a été rasée pour qu'on construise des immeubles. Ceci dit, j'adore moi personnellement le Caire islamique. Parce qu'il y a des beautés architecturales, et puis c'est vraiment la magie de l'Orient qui s'exprime, c'est superbe. Les bords du Nil, par goût personnel, j'aime beaucoup les bords du Nil, puisque cette ville manque quand même terriblement de nature. Or, le Nil, c'est quand même la nature qui s'exprime dans sa plus grande beauté. Donc oui, ça fait vraiment du bien. Il y a un quartier qui est très sympa, Zamalek, qui est sur l'île de Gezira. Il y a cette île très atypique, l'île d'Ahab, qui est une île entièrement agricole, où il n'y a absolument aucun immeuble en plein cœur du Caire. Et voilà, enfin, le Caire, c'est tout ça. Ce sont des disparités incroyables. On passe de tout l'un à tout l'autre. Il y a le quartier d'Héliopolis, près de l'aéroport, qui a été construit il y a un peu plus d'un siècle par le baron Ampin, et qui voulait faire une ville nouvelle à 15 kilomètres du Caire, à laquelle on accédait par tramway en plein milieu du désert, et qui aujourd'hui est complètement englobée dans la cité.
Est-il difficile de vivre au Caire, compte tenu de sa très grande population?
Oui et non. Oui et non, parce que le Caire est une ville passionnante, attachante. Les gens, ils sont absolument adorables. Enfin, vraiment, c'est une ville très chaotique sur certains aspects et extrêmement attachante. En même temps, c'est une ville très polluée, très bruyante. On a l'impression qu'elle ne dort jamais. Et oui, ça peut être épuisant, surtout quand on a besoin de calme et de verdure. Oui, ça peut être épuisant. Mais c'est une ville juste extraordinaire qu'il faut absolument voir une fois dans sa vie.
Elle fait à peu près 15 millions d'habitants, 15-16 millions d'habitants. Plus grande ville d'Afrique, plus grande ville du Moyen-Orient. Le Caire, ça veut dire la victorieuse, je crois, en arabe.
Oui, le Caire, ça veut dire la victorieuse. Quant à son nombre d'habitants, moi, je citerais plutôt entre 18 et 20 millions, d'autant qu'elle explose de partout et qu'elle s'agrandit de jour en jour.
Avec la probabilité d'une nouvelle capitale à l'est de la ville.
Oui, c'est un grand sujet d'actualité, là. Effectivement, la maquette de la future capitale de l'Égypte qui vient d'être dévoilée lors de la conférence de Sharm el-Sheikh, ce sera quelque chose de vraiment de grandiose et de nouveau, on verra.
Finalement, Agnès de Biage, la ville du Caire vaut-elle pour vous le détour?
La ville du Caire vaut résolument le détour, et si même un touriste n'a pas le temps de faire plus que le Caire, on peut juste y passer une semaine, mais sans aucun problème, sans s'ennuyer et en voyant des choses nouvelles chaque jour.
Merci Agnès de Biage, fondatrice des librairies galeries d'art Oum Al-Dounia Tahrir et Oum Al-Dounia Mahdi. C'est au Caire.
Merci beaucoup. What a great place to be. Faisal, Haram, Mohandeseen, Bilki, Mu'attar, Ma'adi, Hussein, Zamalek. Just talk to the taxi. We'll give him an answer. Luxor, Aswan, Minya, Suez. Masri, Gadida is bought for Sharm el-Sheikh. Kobri, Sitta, October, Sayef, Iskandereya. A scene for the scenery, Tamam, Maya, Maya. I stopped the first taxi and said, Agnabi, he asked me, and I'm Masri, I'm. So don't even try to tax me. And I am Dibata'a. Fadili, Sa'ad, Masri, Fil Haram, was born with hotel, this is my country. What Dini built me became a little foul. A deal of Hamastasha, Nashi, Ta'alu. We jump in the cab on our way to Abu Rami's. Can it act like a mean? We can't have alimony. We finished the shawarma, now we need a little shisha. Let's smoke on the desert. Taxi with Dini Giza. Al Haram Lamad Amr, Yib Atal Agameen. Al Tasr Bibn Khati, Tafaso. What's the deal? Meet us at the spot after we finish the lot. It's our kulla ishara, whether they like it or not. Then we're off to the next the spot. In the Ma'adi, it's 4 o'clock, مش متأخر ده عادي. Qahira, what a great place to be. Faisal, Haram, Mohandeseen, Dilki, Mu'attar, Ma'adi, Hussein, Zamalek. Just talk to the taxi, we'll give him an answer. Luxor, Aswan, Minya, Suez. Masri, Gadida is bought for Sharm el-Sheikh. Kobri, Sitta, October, Sayef, Iskandereya. A scene for the scenery, Tamam, Maya, Maya. And Hussein, Ya Zaim, Mashi, Ba'ashreen. Adila, Qamastasha, Waghir, Hum, Mafish. I'm there, I'm walking through a crowd full of hustlers. It's sad, I miss you, Sarah.
There's a few more fussler. We talk back and forth. I know the system of course. With Hustler, yeah, I'm the price is worse than before. For Muster, Mitch, Hatley, yeah, it's Adam McDoob. So you gotta talk him down when you shop at the zoo. Can't hustle a hustler, Mitch, Hatley, with Munzer. If you're not gonna budge me, neither. Yalla, you hustle me, it's smaller. I'm off to the next walk for hours. Time to rest and put some smoke in my chest. If any one had Shisha, Bashay Bahani. I don't know what you want, but I'ma give you what you need. If the hand you don't see, since that fell in the knee, Mitch, Hatnezil, I ain't. You'll change your mind when I leave. Kahara, what a great place to be. Faisal, Haram, Mohandaseen, Duki, Mu'atta, Ma'adi, Hussein, Zamalek. Just talk to the taxi, we'll give him an echer. Luxor, Aswan, Minya, Suez.
Kaira Cairo, un rap anglo-arabe anonyme qui raconte le Caire au quotidien.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Le port du voile est-il un signe culturel ou religieux? Le voile est-il obligatoire? Doit-il être un simple fichu sur les cheveux ou couvrir entièrement la personne, visage compris? De quelle couleur est-il? Autant de questions que l'on peut se poser, quel que soit l'endroit où l'on habite sur cette planète, pays laïque ou religieux, monde musulman ou pas. Bonjour Bruno Nassim Aboudrar.
Bonjour.
Professeur d'esthétique et de théorie de l'art à l'Université Paris à Sorbonne Nouvelle, auteur de « Comment le voile est devenu musulman », paru cette année chez Flammarion. Alors, d'où vient le port du voile et a-t-il un fondement strictement religieux ?
Il n'a pas de fondement strictement religieux. En tout cas, le port du voile est répandu et attesté dans la Méditerranée depuis, comme on dit, la nuit des temps, en tous les cas, très très longtemps avant l'islam. Et la première fois que l'on le rencontre vraiment lié à une question religieuse, c'est pour la religion chrétienne, dans l'épître aux Corinthiens de saint Paul, où l'apôtre des gentils exige des femmes qu'elles portent le voile à la messe. Tandis que dans l'Ancien Testament, il y a très peu d'attestation du voile, et jamais dans un contexte religieux.
Alors, vous l'avez dit, le voile existe depuis avant l'islam, mais que dit le Coran à propos du voile ?
D'abord, il y a un problème de traduction. Le mot voile n'est pas, au sens où nous l'entendons, nous, n'est pas employé dans le Coran. Ce qui est employé, c'est un mot qui veut plutôt dire quelque chose comme écran, toile, voile aussi, mais couverture, rideau. Alors, il est employé d'abord pour séparer la sphère intime de la sphère publique, donc comme un élément de décoration en quelque sorte. Hein, comment. Ensuite, il est recommandé uniquement aux femmes du prophète en présence d'étrangers. Or, les femmes du prophète ont dans le Coran un traitement différent des femmes normales. Et puis, enfin, dans un seul verset d'une seule sourate du Coran, cette recommandation est proposée à toutes les femmes pour des raisons pas du tout religieuses, mais pour des raisons de commodité, en quelque sorte, dont on connaît assez bien le contexte historique.
Alors, de quel voile parle-t-on ? En France, par exemple, on voit de plus en plus de jeunes femmes voilées de pied en cap, avec un drap totalement noir ou parfois violet. Est-ce que c'est le signe d'une pratique religieuse particulière ?
Oui, très certainement, c'est en tous les cas, ça signale une pratique religieuse particulière qui, grosso modo, correspond à ce que l'on appelle, pour faire bref, le salafisme, c'est-à-dire une des innombrables propositions fondamentalistes au sein de la religion musulmane, qui est une religion très vivante et donc extrêmement variée dans ses modalités. Et il y a parmi elles une modalité particulièrement spectaculaire, parce que très visible, qui en passe, entre autres, par des signes vestimentaires très très marquants, comme le voile intégral pour les femmes, la barbe et la kamitz pour les hommes, etc.
Tout ça n'est pas imposé par le Coran.
Non, le Coran ne rentre en aucun cas dans des détails vestimentaires de ce type, et de toute façon ça relève pratiquement de la mode ou des usages. Et par ailleurs, je voudrais juste souligner le fait que le grand paradoxe du salafisme, en tous les cas en Occident, c'est que ces femmes et ces hommes font image, on les voit, il y a quelque chose de terriblement imagé là-dedans. Or, la religion musulmane se signale par sa méfiance à l'endroit des images, voire son interdiction des images à plusieurs reprises. Et donc, c'est un des paradoxes qui m'intéresse, c'est la manière dont, pour signaler la présence de l'islam, ces femmes se contraignent elles-mêmes à faire une image de l'islam, ce qui est un paradoxe complet.
Alors, est-ce qu'il y a des traditions particulières selon les pays majoritairement musulmans? Porte-t-on le voile de la même façon dans les pays du Golfe, par exemple, ou en Indonésie ou au Maghreb?
Le voile est une pratique vestimentaire très liée aux tissus culturels locaux. Donc les voiles, par le passé, étaient aussi différents que les tenues bretonnes pouvaient être différentes des tenues basques. Donc effectivement, par exemple, au Maghreb, le voile, le haïk marocain ou le sefsari tunisien, étaient des voiles blancs, des couvertures blanchâtres et que l'on ne voit plus du tout.
Et en Indonésie, par exemple, c'est plutôt juste un voile.
En Indonésie, c'était un voile traditionnellement beaucoup plus léger, manifestement inspiré, ou pas, inspiré n'est pas le bon mot, mais mêlé aux pratiques hindouistes de sari. Donc c'était plutôt des soieries colorées, noires effectivement en Arabie Saoudite, plutôt bleues en Afghanistan, manifestement pour de simples questions de teinture. C'est, je répète, il s'agit de choses profondément ethnologiques.
On voit bien que le voile est lié, y compris pour la religion chrétienne, vous l'avez dit, avec en rappelant Saint Paul, à un positionnement de la femme considérée comme inférieure et que l'on doit enfermer pour la protéger. Pourtant, il y a de nos jours des défilés de mode, c'est pas paradoxal ?
Alors, les défilés de mode sont très paradoxaux. L'infériorité de la femme, c'est un petit peu plus compliqué. Elle n'est pas spécialement attestée dans le corps religieux musulman, dans le Coran. D'une certaine façon, la religion chrétienne insiste beaucoup plus sur cette infériorité. Et le voile chrétien, autrement dit le voile des moniales, par exemple, est un signe de soumission. Là, c'est explicite. C'est explicite pour Tertullien, par exemple, un père de l'Église au IIIe siècle, qui dit le voile est le joug de la femme. Là, on ne peut pas être plus clair. On n'a aucune trace de ça dans la culture musulmane, aucune trace d'une théorie de l'infériorité de la femme. En revanche, elle est enfermée, ce qui n'est pas marrant non plus, hein, mais c'est autre chose. Elle est enfermée dans des harems, elle est enfermée à l'intérieur de la maison. Il y a toute une structure de l'espace qui est radicalement différente et qui est un espace non mixte. Et le voile est une sorte de truchement de l'enfermement, c'est-à-dire que c'est une sorte de camisole portative. Quoi.
Alors justement, une camisole portative qui sert aussi dans des défilés du voile, ça c'est vraiment paradoxal.
Alors, aujourd'hui, et c'est une des grandes nouvelles, le voile qui n'était pas une image est devenu une image, et le voile qui ne ressortissait pas à la mode dans des pays d'ailleurs qui ignoraient la mode, qui est une affaire fondamentalement occidentale, est devenu, avec l'universalisation, la mondialisation si vous préférez, de la mode, un phénomène de mode qui donne lieu à des défilés, en effet, à une forme aussi de légèreté, de futilité, ces adjectifs entendus de ma part de façon tout à fait laudative d'ailleurs, hein, c'est pas en soi, c'est pas mal d'être léger, au contraire, d'une certaine façon. Mais voilà, il y a maintenant sur le terrain du voile beaucoup de choses, dont certainement de la bigoterie, mais aussi certainement de la coquetterie. Ce sont pas les mêmes, ce sont parfois les mêmes. C'est quelque chose là de très vivant.
Dans les sociétés occidentales, l'abandon du port du foulard a accompagné en général le mouvement de libération des femmes. Est-ce que vous diriez que c'est le mouvement inverse qui est en train de se produire actuellement dans les sociétés musulmanes ?
En tous les cas, le port du voile chez les musulmanes d'Occident ou chez les musulmanes en position d'être libres n'est certainement pas une régression du point de vue de leurs droits sociaux, civiques, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, le voile ne leur soit pas imposé au titre d'une coercition.
Finalement, le fait que les hommes, pour les hommes, d'imposer aux femmes de se cacher sous un voile, n'est-il pas la démonstration de leur propre faiblesse en tant qu'homme ?
Alors, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cette idée est celle d'un féministe égyptien qui a écrit en 1900, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, un livre sur la libération de la femme, qui s'appelle « La libération de la femme », et dans lequel lui, Kassim Amin, il s'appelle, dit ça, il dit exactement ça. Il ironise sur le voile, il dit, mais après tout, est-ce que l'on est si faible, nous les hommes, ou est-ce que l'on est si désirable pour qu'il faille voiler les femmes, etc. Il a tout un discours très ironique sur les hommes et sur la faiblesse dont il témoigne en exigeant des femmes qu'elles soient voilées et enfermées.
Merci Bruno Nassim Aboudrar. Je rappelle que vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire de l'art à l'université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « Comment le voile est devenu musulman », paru cette année chez Flammarion.
Merci.
À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous visiterons la capitale du Yémen, Sanaa. Passez une bonne semaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.